Cours de philosophie première de Père Marie Dominique Philippe, le 16 décembre 1999 à Saint-Jean-d'Arc.
Nous allons continuer à bien préciser le sens de ces affirmations, la substance, principe propre, selon la forme de ce qui est en tant qu'il est. Ça, c'est une conclusion, ou plus ou moins, c'est pas une conclusion, je veux dire, c'est la découverte de l'induction. On découvre un principe. On ne conclut pas une démonstration. Dans une démonstration, on conclut et on mesure. Le principe est saisi comme quelque chose. Quelque chose de réel qui nous dépasse. On est la raison, notre mode humain d'être intelligent. Notre mode humain d'être intelligent, c'est de raisonner. Ce n'est pas être intelligent totalement. Il y a des gens qui raisonnent parfaitement et qui sont bêtes. C'est curieux, hein ? Ça existe. Ils sont bêtes en ce sens qu'ils n'acceptent que ce qu'ils concluent. Alors ça, c'est un manque d'intelligence. Mais le manque d'intelligence se fait quand on croit qu'on sait tout et qu'on ne sait pas tout. Alors, dit, il est un peu étroit, un peu têtu. Il n'existe que ce que je comprends. Et ce que je ne comprends pas, ce que je ne sais pas... Alors, la raison, le mode humain de l'intelligence, c'est la raison. On raisonne. Ça, c'est code naturel. Oui. On raisonne, on discute, on raisonne. L'induction permet à l'intelligence de dépasser le raisonnement et de saisir quelque chose qui est avant le raisonnement, antérieur au raisonnement, qui est dans la réalité et qui touche l'être. L'être, on le découvre comme une réalité qui me dépasse. Ceci est. Et quand vous dites ceci est, vous affirmez qu'il y a une réalité avant votre intelligence et que votre intelligence est relative à ça. L'induction part du jugement d'existence, le sujet, ceci est Pierre, substance première, part du jugement d'existence totalement différent, mon intelligence arrive à connaître la nature de l'homme, ce côté tout à fait particulier. Pierre a une nature humaine. Pierre est un homme. Ceci aussi existe, mais existe grâce à une abstraction. Quand vous dites Pierre, sujet, vous essayez qu'il n'y ait plus du tout d'abstraction. C'est pour ça que ça touche l'expérience. Tandis que quand vous dites homme, c'est encore quelque chose de réel, mais c'est quelque chose de réel que je saisis grâce à une abstraction. Alors, voyez, j'ai deux choses qui existent selon deux modalités totalement différentes. Mais ces deux sont un. Dans la réalité, l'homme n'existe que dans Pierre, que dans Jacques, que dans Timothée. Homme existe dans tous les individus. Homme existe dans chacun d'entre vous. Dans l'un, l'aspect volontaire va s'expliciter plus. Dans l'autre, l'aspect rationnel va s'expliquer plus. dans l'autre, l'esprit intuitif va se développer plus, et ainsi de suite. Mais c'est toujours l'homme. On arrive à s'entendre. Tu vois, quand je suis à côté de quelqu'un très intuitif et moi je raisonne énormément, celui qui raisonne énormément dira, il est assommant avec ses intuitions tout le temps, il fait des bombes. Je n'arrive pas à le suivre. Et l'intuitif dira, parce qu'il est endormant avec ses raisonnements. Ses raisonnements, c'est lourd, c'est lourd. Et c'est vrai, pour l'intuitif, c'est lourd. L'autre, il a des petites ailes. Il y a un oiseau, hein. Comment il résonne un oiseau, c'est extraordinaire, il passe d'une branche à l'autre. Vous ne pouvez pas savoir d'avance, hein. Il ne fait pas de ligne droite, hein, l'oiseau, quand il va. L'intuitif passe d'un domaine à l'autre et prend son miel partout. Et c'est toujours l'homme. L'homme est un être raisonnable. Et oui, raisonnable, intelligent. Parce que la raison sans l'intelligence, c'est très ennuyeux. Et l'intelligence sans la raison, c'est difficile à se communiquer. On arrive difficilement à communiquer ce qu'on a saisi. Et on est très vite très seul. Je saisis ça, c'est ça qui m'intéresse. Tandis que l'autre, c'est que le raisonnement qui l'intéresse. C'est très curieux, vous voyez, qu'on touche là. Eh bien, vous touchez là. Deux, en cherchant, quand je cherche, qu'est-ce qui est de premier dans l'ordre de l'être ? L'expérience la plus digne que j'ai, la plus parfaite que j'ai, c'est l'homme, c'est Pierre. Et je saisis en Pierre, si je cherche sa détermination première, Pierre, pas aller au-delà, l'individu, il est autonome, puis homme. Deux modalités de l'être, et deux modalités extrêmes, le mode singulier, le mode universel. Ça caractérise de façon étonnante. Et tous les deux touchent quelque chose de réel. Le jugement d'existence est présent. Il est explicite. Je ne peux faire mon induction qu'à partir du jugement d'existence. Je cherche donc ce qui est premier. Et c'est là où je vois tout de suite, voyez, que j'abstrais. C'est évident pour homme. Mais j'abstrais en maintenant un contact avec le réel. Homme, ce n'est pas un être de raison. Homme, c'est une réalité particulière qui n'est pas le singe, qui n'est pas le petit cochon. Une autre réalité, distincte, très différente. Je vois les deux. Je me dis, mais l'un et l'autre ont quelque chose de réel sous deux modalités différentes. Est-ce que mon intelligence est capable de dépasser ces deux modalités ? C'est là le grand point d'interrogation. Est-ce que mon intelligence est capable d'atteindre ces deux réalités, de dépasser ces deux réalités ? Oui, parce que quand l'intelligence dit ceci est, l'intelligence saisit Pierre, il est une réalité. Et l'intelligence saisit ce que mon intelligence a pu analyser de Pierre. Pierre est un homme. Et donc, mon intelligence, dans le jugement d'existence, a saisi un au-delà de Pierre et de homme. Si mon intelligence n'avait pas saisi cet au-delà, je dirais, je pose la question, y a-t-il quelque chose qui est au-delà de la substance première substance ? Je ne sais pas. Le jugement d'existence, très simple, me dit oui, je peux aller au-delà de Pierre, parce que Pierre, il existe, il est. Je dis Pierre est. Et quand je dis Pierre est, je dis autre chose que Pierre. J'insiste sur son être. L'être à Pierre. L'être à Pierre. Voilà ce qui m'intéresse. Et je désire saisir qu'est-ce qu'il y a de plus, de plus profond dans l'être. Quand je dis substance, saisi ce principe selon la forme, selon la détermination de ce qui est. Je ne m'arrête plus à Pierre, je m'arrête à son être. Et c'est l'être à Pierre qui m'intéresse. C'est de saisir ce qu'il y a de premier au point de vue de l'être. Pas au point de vue de Pierre, mais au point de vue de l'être. Vous voyez, l'interrogation dirige mon induction. Je suis commandé par l'interrogation. S'il n'y a pas cette interrogation, je m'arrête. Pourquoi chercher ? Je n'expérimente pas. J'expérimente deux choses, Pierre et Hob, c'est suffisant. Pas besoin de plus. C'est pour ça que constamment, voyez, saint Thomas, quand il se sert de la substance en théologie, il ne dépasse pas les deux. Il reste toujours deux. Pourquoi ? Ah, c'est très intéressant. Il est en théologie, jugement d'existence. En théologie, je regarde tout dans la lumière de Dieu. Dieu a créé l'âme. Dieu garde Pierre dans son exister. Dieu garde Pierre dans son exister. C'est l'acte premier du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu est métaphysique. Il touche l'être. C'est ça que des quantités d'historiens oublient. Alors on veut comprendre le gouvernement de Dieu comme on comprend le gouvernement d'un politicien. Tout à fait autre chose. Dieu garde l'être. Il est gardien en Pierre de son âme et de son être. Il est gardien de son âme qu'il a créée, et parce que l'âme est source d'être, il est gardé par Dieu. Et donc, je veux comprendre ce qu'il y a dans Pierre de radical. C'est pas son âme. Là, je reste au niveau homme. C'est l'homme qui existe en Pierre. Donc, en Pierre, il existe une modalité particulière d'être, c'est Pierre. Pierre, il existe. Et il existe comme Pierre. Et il existe en Pierre. Je vais aller plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au point de vue de l'être, ce que je saisis dans Pierre, c'est très intéressant, c'est capital, mais je ne peux pas rester là, parce que je resterai dans le singulier. Alors, comprenons bien, c'est le nouveau genre d'abstraction, là. Ce que la scolastique avait mis en pleine lumière. Il y a une nouvelle abstraction. Vous voyez, le passage de Pierre à homme et le passage de Pierre à être, ce sont deux types d'abstraction totalement différents. Le passage de Pierre à homme, c'est l'abstraction dite universelle. L'abstraction de Pierre à homme, c'est une abstraction bien plus subtile. J'essaie de saisir ce qu'il y a de plus fondamental, d'ultime en Pierre. Il est. Alors, évidemment, vous voyez, quand Husserl dit « on met entre parenthèses l'être », c'était comme ça. Comprenez bien ça. Faites un petit schéma pour que vous compreniez mieux. Vous mettez Pierre. Vous passez de Pierre à homme. Il y a une abstraction. Homme est dans Pierre, mais pour toucher ce que c'est que homme, je dois laisser tomber ce qui caractérise d'une façon originale Pierre. Toute son individuation, toute son existence actuelle. Donc il y a un passage, il y a une abstraction. On parle de ça en disant abstraction formelle, universelle. Pardon. Abstraction universelle. Je laisse tomber le singulier pour regarder l'universel. La détermination profonde spécifique est la même. Pierre est un homme. Donc si Pierre est un homme, c'est la même. Qu'est-ce qui est de commun? Il y a quelque chose de commun entre Pierre et homme. Et il y a en même temps deux modalités différentes. Singulier, universel. Or, c'est l'universel, c'est l'intelligence qui saisit l'universel. Vous n'avez jamais touché l'universel. Non, jamais. Mais l'intelligence, elle, s'intéresse à l'universel. Et elle s'intéresse plus à l'universel qu'au singulier. C'est ça qui est agaçant pour l'artiste. Il s'intéresse plus à l'universel qu'au singulier. Alors que le singulier, je le décris. L'universel, je le saisis. Je le saisis intelligent. Je vois que l'universel est genre et différent spécifique, animal, rationnel. Ça, c'est l'universel. Bon, c'est la logique qui étudie genre et différent spécifique à l'intérieur de cet universel particulier qui est l'universel spécifique qui implique le genre et l'animal. Vous voyez ? Là, l'intelligence est tout à fait à l'aise. On est dans l'universel, c'est propre l'universel. C'est merveilleux. Il n'y a pas de querelle de jalousie, on n'est jamais jaloux pour un universel. Pas de jalousie, c'est propre. L'affectivité ne pénètre pas là-dedans. Parce que je ne peux pas aimer l'universel, comment voulez-vous aimer l'universel? Il n'est pas méchant, il a l'immense avantage, c'est qu'il ne répond jamais. Animal, il dort. Rationnel, laissons-le raisonner. Ça n'a pas d'importance. Il ne touche pas directement le réel. Il touche un réel qui est dans ma pensée, qui est dans ma raison. Tandis que Pierre, ou alors là oui, je suis jaloux de Pierre, singulier. Il a des qualités que je n'ai pas, il existe d'autres choses. Alors je fais attention, je suis un grand détour. L'universel homme, ça va, on est à l'aise. Puis alors, j'interroge ce que j'ai. Ici, j'ai donc substance première. Substance seconde. On ne peut pas rester ces deux modalités. Pourquoi? Parce que j'ai découvert Pierre et homme dans un jugement d'existence. Ceci est. Oui, c'est vrai, Pierre existe. C'est un singulier. Et homme, homme, il existe dans mon intelligence. Il a donc une intelligibilité particulière, il a une modalité d'existence très particulière. C'est l'existence de ce qui est connu. C'est le connu. Homme, c'est le connu. Il n'existe que dans mon intelligence. Donc, grâce à ce jugement d'existence, ceci est. Je ne peux pas m'arrêter à Pierre et à homme. Je dois aller plus loin. Je dois regarder au niveau de l'être. Et au niveau de l'être, je suis en face de deux modalités singulières, universelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces deux modalités ? J'interroge, je veux chercher ce qui est de premier. Donc c'est commun. Je peux m'arrêter à Pierre, je peux m'arrêter à homme. Et la plupart des intelligences s'arrêtent là, au point de vue rationnel. Ça c'est tout à fait caractéristique de l'intelligence humaine. Il y a une abstraction universelle. L'abstraction universelle, vous l'avez apprise en apprenant une langue. Vous voyez, blanc, blancheur. Ah. Vous voyez, pierre, animal. Et puis, Tout le monde comprend ça. Tout le monde accepte l'abstraction universelle. Tout le monde. Parce que dans le langage, c'est toujours présent. Et la science, ce qu'on appelle la science, est toujours fondée sur l'universel. Il n'y aurait pas de science, il n'y avait pas l'universel. Autrement, vous restez dans la description. Et dans la description, c'est très bien, mais c'est pas quelque chose universel qui me permet de dépasser. Je reste dans la description de Pierre. Donc, je me pose la question du point de vue de l'être, jugement d'existence. S'il n'y a pas le jugement d'existence, je m'arrêterai à ça. Mais mon jugement d'existence, pour moi, est capital, il est premier. Et c'est parce qu'il y a un jugement d'existence qu'il y a une philosophie. S'il n'y avait pas de jugement d'existence, il n'y aurait pas de philosophie. Et c'est pour ça, quand Husserl met entre parenthèses l'être, et dit « ceci est » et « ceci, c'est identique », je dis très bien, mais alors il n'y a plus de philosophie. Je suis en présence tout simplement de ce que je connais, c'est-à-dire au fond l'abstraction universelle. Et je ne m'occupe plus du tout du singulier. Parce que seul ceci est singulier. Ceci tout court, en mettant entre parenthèses être, n'est pas singulier. C'est ceci. C'est une détermination, ceci, c'est ceci. Homme, c'est ceci. Et ceci aussi. Et ceci aussi. Pas de jalousie, hein. C'est ceci. La Jésus commence avec « Ah, il est ». Il est unique. Il est unique dans son existence. Donc il n'est pas moi. Dès que ceci, je suis ceci, tu es ceci, bon, très bien, on s'accorde. On est d'accord. Restons là, c'est plus facile. Là, c'est pas de jalousie. Merveilleux. L'affectivité n'entre pas là-dedans. C'est universel. Tout ce qui est universel, ça veut. Très curieux, hein. C'est très curieux. La mentalité scientifique. Hein. Parce qu'il faut saisir là, la mentalité scientifique. La mentalité scientifique, c'est justement, là, pas de querelle de jalousie. Il y aura la querelle pour le savant qui se mettra à écrire un livre. Ah oui, ça c'est singulier. C'est une œuvre qu'il a fait. Et dans son livre, il dit des choses que personne n'a dit jusque maintenant. Alors à partir de là, il est un grand savant. Et il était original, prix Nobel. Voyez, c'est très curieux de voir ça. Et alors, la distance qui existe entre Pierre et, entre ceci et Pierre, il y a une distance. C'est pas la même chose. Ceci et Pierre. En revenant à ceci et, je me mets à regarder la différence qui existe entre ceci et Pierre et ceci et homme. C'est sous le point de vue de l'être. Sous le point de vue de l'être, Pierre est premier au point de vue existence, singulier. Homme est premier du point de vue de la détermination. Qu'est-ce qui est plus important pour l'être ? Qu'est-ce qui est premier pour l'être ? C'est ça que je cherche. Tant que je n'ai pas saisi le premier, je ne suis pas à un niveau philosophique. Qu'est-ce qui est premier ? Pierre, d'une certaine manière, est premier. Homme, d'une autre manière, est premier. Ils sont premiers tous les deux, mais chacun à leur façon. Mais il y a quelque chose de commun, puisque l'un et l'autre sont premiers. Alors, est-ce que je ne peux pas, dans une nouvelle abstraction, une abstraction philosophique, saisir, séparer, d'une abstraction qui va beaucoup plus loin, je regarde tout sous le point de vue de l'être. Sous le point de vue de l'être, il y a quelque chose de commun entre homme et Pierre, et ce quelque chose de commun, c'est substance. C'est-à-dire quelque chose de premier, selon la détermination, selon la forme, au niveau de l'être. Vous voyez ? C'est ça qui est très curieux dans l'induction. C'est que si je ne vois pas ce jugement d'existence, je dis pourquoi ? Il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Mais si je fais ce jugement d'existence, ah, je suis obligé d'aller plus loin. Je ne peux pas m'arrêter à homme, à à pierre et à homme. Je dois aller plus loin. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Alors je dis à ce moment-là, il y a un principe qui est présent avec pierre, qui est présent avec homme. Il y a ce quelque chose de commun. Et je l'appelle, peu importe je l'appelle ousios, substance, parce que précisément, je suis en face de la substance première, de la substance seconde. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que la dénomination, le langage, part de l'expérience. Dès que j'ai une expérience, il me faut un mot pour le communiquer aux autres. Quand vous voyez un animal que vous n'avez encore jamais vu, hein, dans un pays, première fois que vous allez en Afrique, vous voyez des serpents, parce que c'est un animal qu'on fréquente assez facilement, n'est-ce pas? Alors vous voyez le serpent, vous ne l'avez encore jamais vu. Regardez. Alors vous dites tout de suite, comment ça s'appelle? Il faut désigner cet animal. Comment il s'appelle? Le serpent, oui, c'est très bien un serpent, mais quel type de serpent? L'expérience. Tant que vous n'avez pas l'expérience, c'est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, vous apprenez tous les types de serpents particuliers. C'est très bien. Mais vous n'avez jamais vu. Ah, c'est une petite figure, petite figura. Très bien. Serpent à lunettes. Serpent. C'est serpent. Dès qu'il y a l'expérience, il y a la nomination. Quand vous avez quelque chose qui est au-delà de l'expérience, alors à ce moment-là, vous n'avez plus de mots. C'est ça qui est très curieux. L'intelligence est d'une certaine manière seule. C'est une expérience de la solitude de l'intelligence. Quand l'intelligence fait ce passage de l'expérience à la découverte du principe. L'intelligence est seule. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce qu'il y a de commun aux mots et je dis oui, saisis, c'est substance seconde, non. Substance première, non. Ça, c'est modalité. Il reste substance. Je l'appelle substance. Mais j'en ai pas l'expérience immédiate. L'expérience est là. Ça, c'est deux expériences. J'ai ces deux expériences. Ça, tout le monde peut avoir cette expérience des deux. Tout le monde peut avoir le jugement d'existence. Et quand vous jugez alors dans la lumière du jugement d'existence, vous interrogez, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Alors, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'être? Ben, il faut bien le jugement d'existence, là. C'est le jugement d'existence qui me rend cette interrogation vivante. Or, vous interrogez substance première, substance seconde, ils sont premiers d'une certaine manière, dans une perspective donnée, mais pas d'une façon absolue. Qu'est-ce qui fait l'au-delà de ces deux? Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est ce principe que je saisis à partir des deux, à partir des deux, et au-delà des deux. Ce qui est commun dans les deux, dans l'ordre de l'être, c'est substance. Substance est dans homme, substance est dans pierre. Mais je ne peux pas dire que la substance c'est pierre, que la substance c'est homme. Non, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Vous voyez, cette l'induction revient au jugement d'existence. Et s'il n'y avait pas ce retour au jugement d'existence, je quitterais la philosophie et je serais dans l'imaginaire. Parce que prendre de l'imaginaire, c'est de quitter le jugement d'existence. Tandis que quand vous savez que le jugement d'existence est là et qu'il interroge, vous êtes devant quelque chose de très particulier. Ce n'est plus l'abstraction, c'est un jugement, alors on l'appelle une abstraction formelle, c'est-à-dire une abstraction qui saisit la pointe. C'est l'esprit pointu, la pointe, la pointe de l'être, présent dans Pierre, présent dans homme. Pierre et homme sont deux modalités de l'être. Qu'est-ce qui est premier dans ces deux modalités? Je supprime substance 1, je supprime 2, et je sépare, une séparation pour saisir ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Et je dis principe selon la forme de ce qui est. Et l'intelligence seule saisit ça. Oui. Je décolle, si vous voulez. C'est quand l'avion quitte terre. Il y a un moment où il quitte terre. Et c'est ce moment est impressionnant, hein, parce qu'il pourrait ne pas décoller. Il y a des intelligences qui décollent, il y a des intelligences qui ne décollent pas. Elles restent toujours. Oh, c'est plus sûr de rester toujours avec Pierre. C'est plus sûr, ça, je le sais. Je lui tiens la main. Tandis que vous ne pouvez pas donner la main à être. Vous ne pouvez pas le quitter et dire au revoir, vous élevez. Et je saisis un principe. C'est impressionnant de saisir un principe. Hein, parce que je saisis à ce moment-là l'intelligence, comme dit Aristote, séparée de la matière. C'est l'intelligence qui décolle, séparée de la matière, et donc séparée de l'expérience immédiate. Je n'ai pas l'expérience immédiate de la substance. Alors c'est ça qui est déroutant. Quand on est un peu positiviste, comme tout le monde d'aujourd'hui, on est tous positifs, on est tous nés dans la science. On a une peine énorme de sortir de la science. On a une peine énorme de sortir de la logique. Alors, la logique, ça va, l'universel, c'est très bien. Animal, ça va très bien. Rationnel aussi, ça va très bien. Mais l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est ni la raison, ni animal. L'intelligence est au-delà de la raison. La raison, elle saisit avant tout les relations. Ah, c'est le domaine de la raison, ça. Et le genre animal, c'est le domaine de l'instinct. Oh, je suis très à l'aise dans l'instinct. Je suis toujours premier, j'ai un instinct très fort, je saisis ça tout de suite. Et puis, la relation. Et l'intelligence saisit le principe, ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Alors, au début, je suis tout à fait d'accord avec vous. Au début, je reste devant un mot. Substance. Un mot commun. Ça a été ça qui m'a aidé. Le mot m'a aidé à ce dépassement, à ce décollage, à dépasser l'expérience. Alors, on a, comme c'est très difficile de dépasser le décollage, on garde quand même un petit contact par le mot. Il a fallu inventer ce mot, substance, ousia. Et vous comprenez très bien que dès que je me sers de la philosophie pour entrer en théologie, j'ai un principe beaucoup plus élevé que tous mes principes philosophiques, puisque c'est Dieu. Je pars tout de suite, Dieu qui me parle. Et donc, je laisse tomber les principes et je reviens à l'expérience. Ça explique comment Thomas d'Aquin, au fond, n'a pas tellement, ne se sert pas en théologie, de la substance comme principe propre de ce qui est. Ça, je voulais revenir là-dessus pour que vous voyez bien. C'est tellement important. L'induction. Et comme on ne l'enseigne jamais, parce qu'il faut vraiment d'être entré dans Aristote pour comprendre que c'est ça le génie d'Aristote. Éveiller l'intelligence. Et l'intelligence s'éveille quand elle décolle au-dessus et qu'elle saisit le principe. Alors, au début, c'est très vrai, on a un petit fil conducteur, substance. Et puis on se dit, substance, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. C'est pas ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être tout court, mais selon la forme. C'est ce que j'ai cherché à saisir, ce qu'il y avait de premier dans l'ordre de la détermination de l'être. Et dès que je saisis substance, je me sépare de tout ce qui est accidentel. Qu'est-ce qui est accidentel? L'individuation, au point de vue métaphysique. Que l'être soit individué, oui, c'est très bien, mais l'individuation, c'est pas l'être. Qu'est-ce qu'il y a encore? Homme. Homme, c'est très bien, mais c'est pas l'être non plus. C'est tel être particulier, tel être pensé. Alors vous voyez bien que au niveau phénoménologique, Husserl, mise entre parenthèses de l'être, l'upoké de Husserl, je mets entre parenthèses. Vous voyez, l'être est gênant pour quelqu'un qui entre dans la phénoménologie. Comme l'être est gênant pour le mathématicien. Pour le mathématicien, ce qui est important, c'est la relation. C'est ça qu'il saisit. L'être, il est rebelle, il s'impose, il est tyrannique. C'est vrai, c'est tyrannique le jugement d'existence. Ceci est. Je n'ai pas le droit de ne pas le regarder. C'est tyrannique. Alors j'aime mieux être libre. C'est très bien, je mets entre parenthèses l'être. Je le mets en prison. Entre parenthèses, je le rejette. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est tout des... Au fond, en faisant ça, on rejoint quoi? On rejoint les mathématiques. Et on est devant une super mathématique, toute espèce de relation. Or, la relation, nous le verrons, la relation est aussi bien relation réelle que relation de raison. Donc, au niveau relation, c'est très vrai, je mets entre parenthèses l'être et je ne regarde que la relation. Alors, à ce moment-là, vous voyez, que devient Pierre? Que devient Pierre? Si je mets entre parenthèses l'être, je dirais Pierre, c'est un faisceau de relations personnelles et individuelles. Pierre, il fume, il a une pipe, et il aime de fumer avec sa pipe du dimanche. Pierre, il a telle manie particulière qui fait qu'on le reconnaît tout de suite. Il a une démarche très saccadée. Ah, on l'entend passer. J'ai jamais entendu quelqu'un passer avec cette démarche très saccadée. Je sais bien, il est grand et lourd, alors ça pèse. Ça, c'est sûrement lui qui passe. Oui, c'est ça. C'est sa relation. C'est pas l'être, c'est pas son être, mais c'est sa relation. Il a une relation avec le plancher assez particulière. Une relation très spéciale. Il tape dessus et le plancher répond. Alors, voilà la relation. J'ai tout dit, tout ce faisceau de relations. Et je crois saisir Pierre, mais je ne saisis pas Pierre du tout. C'est très intéressant de voir que c'est l'être qui fait l'unité. Et c'est pour ça que Aristote dira que l'unité est propriété de ce qui est en tant qu'être. Mais si vous supprimez l'être, vous n'avez plus d'unité. Vous avez un faisceau de relations. Alors vous êtes sensible à telle ou telle relation. Alors par là, vous faites la caricature. Quand vous désignez Pierre par une relation, ça démarche. Vous faites tout de suite le croquis de Pierre. Vous montrez ses grandes jambes, ses grands pieds. Alors c'est ça, Pierre qui passe. Mais celui qui fait une caricature a le sens d'une relation qu'il met en vedette. Et cette relation prend toutes les autres relations qui se font à partir de là. C'est très intéressant au point de vue caricature, c'est très intéressant au point de vue descriptif, Mais ça ne voulait pas comprendre ce que c'est que la réalité. L'être est disparu. Il n'y a plus que la relation. Quand je saisis la substance par rapport à l'homme, par rapport à Pierre, par rapport à homme, qu'est-ce que c'est que cette substance ? Par rapport à l'être, ah, c'est l'âme. C'est l'âme. Qu'est-ce qui fait l'unité foncière qui est en moi ? Que je dorme, que je mange, que je prie, que je suis charitable, que je suis de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui fait l'unité de toutes ces relations, de ces multiples relations ? C'est son être. Il est. Il est grâce à son âme. C'est l'âme qui a déterminé son corps. C'est l'âme qui détermine toutes ses activités. Alors, je vois la différence entre la substance et l'âme. Et je peux dire que l'âme est substance. Mais je ne peux pas dire que toute substance est âme. Ah. Alors ça, c'est plus calé. Et c'est intéressant. Oui, je peux dire que l'âme est substance. Pourquoi ? Parce que l'âme, je la découvre comme ce qui est premier, qui me fait comprendre l'unité de ma vie. C'est mon âme qui est source de toutes mes opérations. Source lointaine, source immédiate, source de toutes mes opérations. Toutes mes opérations humaines sont commandées par mon âme. C'est comme ça que j'ai posé l'âme et que j'ai induit l'âme. J'ai vu toutes ces opérations. Je ne peux pas ramener l'homme à sa démarche. Je ne peux pas ramener l'homme à son petit déjeuner. Tous les matins, il prend son petit déjeuner. Est-ce que c'est caractéristique de l'homme ? Non. Pourtant, il le fait bien, ce petit déjeuner. Il est très présent, ce petit déjeuner. Et il dort tous les jours. Est-ce que c'est ça qui définit l'homme ? Non. C'est une de ses opérations vitales. Et qu'est-ce qui est à la racine de toutes ces opérations vitales ? Une source, puisqu'il y a quelque chose qui est unique dans toutes ces opérations vitales, qui provient de son âme. L'âme est donc principe de vie à travers cette très grande diversité, à travers toutes ces relations différentes. Principe qui fait l'unité, l'âme. Or, quelle différence y a-t-il entre l'être et la vie ? C'est que tout vivant existe. Tout ce qui est n'est pas vivant. Ça, je peux le dire, hein. On a l'expérience de la Lune. Dans notre expérience, l'expérience que vous avez de la Terre, vous avez l'expérience des animaux, vous avez l'expérience... Mais vous rencontrez toujours le vivant, hein. C'est ça qui vous rassure, hein. Vous rencontrez toujours le vivant. Même au désert, vous rencontrez le vivant. Et vous êtes très attentif au désert. Aux petits animaux qui vivent dans le désert. Et il y en a qui vivent dans le désert. Donc il y a la vie. Vous ne rencontrez jamais en dehors des astres une réalité qui ne vit pas. Une réalité qui ne vit pas, il faut aller au pôle Nord. Là, vous rencontrez des icebergs. C'est drôle. Des animaux particuliers, ils ne vivent pas. Ils sont mûs. Tandis que le vivant se meut. Donc vous pouvez dire que toute vie implique l'être. Toute vie implique l'être. Tandis que l'être n'implique pas toujours la vie. Mais quand vous êtes dans un monde vivant, toujours tout être implique la vie. Vous n'avez jamais touché un être qui ne soit pas en relation avec la vie. Jamais. Tant que vous êtes sur cet univers. Ah, si vous faites le petit voyage pour aller dans la Lune, la première expérience, c'est qu'on est devant un monde qui ne vit plus. Parce que le cadavre humain, il ne vit plus humainement, mais il continue de vivre. La preuve, c'est qu'il se désagrège. Et se désagrège de l'intérieur, ce qui est mieux. Vous avez beau le mettre dans un cercueil, de l'isoler complètement de tout le monde vivant à l'extérieur le plus possible, il se désagrège quand même. Il porte en lui des germes de désagrégation. Dès que l'âme est partie. Jusque-là, l'âme, d'une manière tyrannique, maintenait toutes ces petites sources de vie dans l'unité. Mais quand l'âme n'est plus là, désagrégation. L'âme est source d'unité de la vie et source d'unité de l'être. En tant que l'âme est source de l'unité de l'être, elle est substance. Vous voyez le passage de l'un à l'autre. L'expérience que vous avez, ceci est. Vous ne dites pas ceci est un vivant. Vous dites ceci est. Vous avez donc l'expérience du jugement d'existence avant l'expérience du vivant. Vous avez donc l'expérience du jugement d'existence avant l'expérience du vivant. Ceci est. Le ceci est conduit à l'induction de la substance. Ceci est un vivant, ça conduit à l'induction de l'âme. Alors vous vous poserez la question, est-ce que tout vivant a une âme ou est-ce que seul l'homme a une âme ? C'est intéressant comme question, hein, point de vue philosophie du vivant. L'âme, principe de vie. Donc, du fait même qu'il y a un vivant, et le vivant est toujours complexe. Vous n'avez jamais rencontré un vivant simple. Toujours complexe, toujours divers. Et quelle est la diversité la plus radicale entre ceci est et ceci est un vivant ? C'est qu'il se meut. Dès qu'il y a quelqu'un qui se meut, ah, c'est un vivant. C'est pour ça que quand quelqu'un ne se meut plus, on dit, tiens, la mort est proche. Et c'est les signes que l'âme n'informe plus. Donc, il y a une unité et une diversité entre âme et substance. Unité, tous les deux, principe. Principe selon la forme de ce qui est, principe de ce qui est vivant. Le vivant ajoute une modalité, une qualité particulière à l'égard de ce qui est. Et donc, il est normal que l'intelligence découvre deux principes distincts. Le principe propre de ce qui est, selon la forme, c'est la substance. Principe propre de ce qui vit, selon sa détermination, l'âme. Mais, puisque le vivant est, puisque le vivant est un être plus parfait que le non-vivant, il y a une immanence, vous pouvez dire que lorsqu'il s'agit de découvrir le principe de la vie, vous découvrez en même temps le principe de l'être. Alors, si dans tous les vivants il y a une âme, il y a donc une substance. Ah, alors là, il faudra voir si tout ce qui est et qui est vivant possède une substance. Ou bien seul l'homme possède une âme et une substance. Ça n'a pas grande importance au point de vue philosophique. Hein. Parce qu'au point de vue philosophique, je regarde toujours tout sous le point de vue de l'homme. Alors, il est évident que tous les autres vivants dehors de l'homme que j'expérimente sont imparfaits. Donc l'homme est le premier des vivants. Est-il le premier être ? Ah, ça, on verra. On se posera la question. Vous voyez, donc ce qui est très très important, c'est de bien saisir la distinction qu'il y a entre être, entre le premier selon l'être et le premier selon la vie. Il y a une distinction là qui vient de mon intelligence. Hein. Cette distinction n'implique pas une séparation existante. Il peut très bien se faire que ma substance soit mon âme, ce soit la même réalité. Alors voyez, là, je passe, et c'est toujours ce qu'il faut bien saisir, je passe de l'analyse philosophique, de l'analyse scientifique, au jugement d'existence. Dans un jugement d'existence, il y a le même jugement d'existence en disant la substance, ma substance, c'est mon âme. C'est le même jugement d'existence. Je n'ai pas deux jugements d'existence différents. Mais, quand je parle de mon âme, je dis tout de suite, mon âme, c'est principe de mon être, étant principe de ma vie. C'est par le point de vue de la vie que je découvre que l'âme est principe propre du vivant, de ce vivant qui est moi. Je fais donc une distinction nette entre substance et âme. Et je vois que pour moi, substance et âme s'identifient dans le jugement d'existence. Alors, vous voyez là tout de suite la différence entre un jugement proprement philosophique et un jugement d'existence qui est à la racine de tous mes raisonnements, mais qui est le fondement, si vous voulez, auquel je reviens tout le temps. Le principe philosophique, lui, du moins l'analyse philosophique, fait la distinction entre substance et âme. Parce que je fais la distinction entre être et vie. Je distingue les deux. Je ne dis pas tout être est vivant, non. Tout être n'est pas vivant. Il y a un moment donné où mon être, ma vie, va se scinder en deux. J'appellerai ça la mort. Alors à ce moment-là, mon âme, principe de vie, va retrouver une autonomie. Retrouver. Elle va découvrir une autonomie. Mais pour découvrir cette autonomie, elle quitte le corps. Le corps qui était très uni avec moi. Nous ne faisions qu'un substantiellement. Et nous étions l'être humain. Quand la mort arrive, séparation entre mon corps et mon âme. Une séparation douloureuse, puisque je suis un être un. Et plus je vieillis, plus la mort devient douloureuse. Un enfant meurt très facilement. Un vieillard meurt très difficilement. Il y a une agonie qui peut être très longue. Séparation de l'âme et du corps. Vous voyez, on a l'impression que l'âme s'enracine dans le corps d'une manière tellement profonde que on se dit, mais cette séparation, comment va-t-elle se faire? C'est ça qu'on appelle l'agonie. On est devant une séparation douloureuse. Et voyez, là, vous touchez bien la différence entre l'âme, substance au niveau de l'être, l'âme, principe de vie dans le corps.